Le musée de l'école rurale en Bretagne de Trégarvan, encore lui, il faut dire qu'il s'y passe toujours quelque chose. C'est le cas depuis la rentrée puisque le musée s'est enrichi d'un centre de documentation destiné aux chercheurs, aux enseignants, aux journalistes qui travailleraient sur ce sujet de l'école rurale en Bretagne. Virginie Gorec, la directrice du musée, et Pierre Gral, le président des Amis du musée, nous explique ce qu'on y trouve.
C'est une des missions des musées de France qui est de pouvoir aussi diffuser des recherches et d'avoir l'accès à des ressources documentaires. Donc c'est ce qu'on va pouvoir mettre en place là, dès le 1er septembre. On peut accueillir sur demande des chercheurs, des enseignants, des étudiants et toute autre personne qui ont un projet dont les travaux, les livres peuvent répondre derrière à leurs besoins.
Alors il y a deux moyens d'accéder à des ouvrages, c'est ça
Alors effectivement, il y a deux entrées pour nos ressources documentaires. Il y a via le site internet où là, la base de données des livres, d'environ les 1500 références que l'on a sur nos rayons est accessible. Donc on peut faire là une première recherche. Mais dès ce site internet et sur demande sont aussi accessibles en intégralité les travaux, les dossiers de recherche menés par les membres de l'association des Amis du musée.
Quelles sont-elles ces recherches en général menées par les Amis du musée ?
Alors les Amis du musée ont commencé leurs recherches comme à la fin des années 70. Elles ont porté sur l'école, bien sûr, dans ses rapports avec l'État, dans ses rapports avec le breton, dans la manière aussi d'enseigner, avec des études de l'évolution des écoles, mais aussi des témoignages d'instituteurs, d'un frère aussi de l'école de Plohermel, un des frères de Plohermel. Et disons que c'est une ressource qui a été très intéressante. Aujourd'hui, un certain nombre de ces auteurs sont retraités, quelques-uns malheureusement décédés. Et ils représentent donc un moment de l'enseignement. Et il y a eu ici un colloque, par exemple, sur le breton à l'école, dont on a rapporté les principaux éléments dans un ouvrage qui aujourd'hui peut être consulté sur l'ordinateur.
Ça fait combien d'ouvrages en tout qui sont disponibles sur l'ordinateur à peu près ?
Les ouvrages de l'association sont au nombre de 21. Et donc le dernier étant l'enquête de 1833 qui a été mise en forme par M. Jaffredou, qui est un ancien président de l'association, et qui, à partir de ses recherches aux archives nationales, a pu recenser, donc, d'une part, toutes les écoles qui se trouvaient ouvertes à cette date.
Dans le Finistère.
Dans le Finistère, bien sûr. Et également, qui a indiqué à la fois quels étaient les instituteurs, quels étaient leurs traitements, leurs formations, quels étaient les élèves présents, la part des indigents qui étaient à l'époque scolarisés gratuitement.
Parce que c'était quand même avant l'école obligatoire, donc il faut bien le dire.
Oui, c'était une époque où ni à Trégarvan, ni à Dinéol, il n'y avait d'école. Et dans l'arrondissement ici, il y avait une douzaine d'écoles seulement dans l'arrondissement de Châteaulin.
D'ailleurs, c'est marrant, surtout sur des communes où finalement il n'y a plus d'école aujourd'hui, un peu, non ?
Oui, enfin aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu depuis à nouveau un resserrement, on peut dire, des écoles, puisque l'école de Trégarvan a fermé en 1974, elle a été inaugurée en 1907, mais il y avait déjà dans une maison particulière, une école à partir de 1851, je pense.
Et c'était des écoles, c'était l'Église catholique qui enseignait surtout
Non, c'était des écoles publiques, mais avec un enseignement confessionnel important, surtout avant, la création de l'école publique, laïque et obligatoire. Même si sous Guizot, par exemple, les écoles étaient publiques, l'enseignement du catéchisme, de l'histoire sainte prenait une part importante. une caractéristique aussi de l'enseignement, une originalité, c'était l'importance que l'on accordait à ce qu'on appelait l'école mutuelle, c'est-à-dire que les élèves les plus anciens participaient à l'enseignement des plus jeunes.
Ah oui, bah c'était très... Oui, ça paraît très innovant aujourd'hui.
Oui, ça pourrait paraître innovant. Ce n'était d'ailleurs pas si simple de leur part, car ça supposait aussi, disons, un certain don à le faire. Il faut ajouter qu'à l'époque, et ceci date, on peut le dire jusqu'en 1930, les années 30, l'importance des travaux agricoles faisait que l'été, les enfants quittaient l'école pour rejoindre sous forme de main-d'œuvre gratuite leurs parents dans la ferme. Ce qui explique qu'en 1833, à Châteaulin, il y avait donc en hiver 90 élèves à l'école et l'été, il n'y en avait que 50.
Et en plus... Alors, je ne sais pas si on avait le droit de cracher par terre, mais en tout cas, on avait le droit de parler breton à l'époque.
C'était une école française. Et déjà en 1833, les instituteurs se plaignaient du fait que les élèves parlant breton, leurs parents parlant breton, c'était difficile d'enseigner le français. Il était d'ailleurs recommandé par les inspecteurs aux instituteurs de parler également le breton. Et dans ces rapports entre le breton et le français, disons que la situation a évolué, pas toujours dans le même sens, même si on a eu en effet l'institution de ce qu'on a appelé le symbole ou encore la vache pour les élèves pris à parler breton. Il y a eu aussi des instructions de l'inspection académique dans les années 1850 pour que l'apprentissage du français à partir du breton se fasse sous forme de mots, puis de phrases en breton, la traduction en français et ensuite du français au breton. C'était une méthode intéressante dans cette volonté justement d'apprendre le français. Et il y avait chez certaines familles d'ailleurs une réticence devant cette école française, car les parents étaient bien conscients que ça allait leur enlever de la main-d'œuvre. Et c'est vrai que avec aussi l'apparition du train, la compagnie d'Orléans entre Paris et Châteaulin en 1864, puisque Châteaulin était, un terminus, cette compagnie organisait des voyages gratuits à Paris au moment des expositions universelles. Et aussi à Lourdes, il faut le dire.
Ah oui, important. Et dans les ouvrages en ligne, il n'y en a pas en breton, ils sont en français
Oui, uniquement, c'est des travaux des membres d'associations, du coup, ils ont écrit en français. Ouais.
Et alors, sinon, les ouvrages qui sont consultables sur place, combien il y en a? Qu'est-ce que c'est, en gros?
Alors, on a, en termes de livres, purement, ouvrages-livres, on est sur un peu plus de 1200. Et on a aussi des périodiques, des revues, et là, on est sur environ... un peu plus de 200. Donc on est on est autour de 1500 ouvrages qui sont consultables sur de rendez-vous auprès de l'équipe du musée de l'école et grâce notamment à un poste informatique où la base de données est accessible et par des entrées de mots-clés, les chercheurs pourront faire leur recherche selon les thèmes dont ils souhaitent creuser.
Quelques raretés, enfin quelques ouvrages un peu précieux.
Oui, on a plusieurs ouvrages de la fin du 19e siècle, mais on en a notamment un, mais très fragile, de la fin du 18e siècle, donc protégé hein, dans une enveloppe. Et celui-là, bon, effectivement, il ne sera pas consultable, mais il est là, il fait partie du fond, il fait partie des étagères.
Et le titre ? Il s'appelle « Essai philosophique concernant l'entendement humain ». C'est le deuxième tome de Jean Locke. Mmh. Et il est édité en 755.
Et il n'y a pas de documents multimédia, enfin justement des collectages sonores qui auraient pu être faits?
Ça va venir dans un second temps, effectivement. On est conscient que l'on a beaucoup de collectages sonores. Et dans un second temps, qui fera probablement l'objet d'un prochain stage, ça va être aussi d'être sur le même principe que les travaux des membres de l'association. Donc, une genre de fiche de lecture, c'est-à-dire le contenu que les gens peuvent trouver, mais sur demande derrière un accès à la piste sonore via l'espace sécurisé. Mais c'est vrai qu'on a ces ressources-là. Il y a eu un gros travail de fait, notamment avec les membres de l'association, sur le collectage de mémoire. Et donc, il viendra dans un second temps compléter ce fonds, ces ressources documentaires. Oui.
Et c'est protégé, bien sûr. Enfin, c'est pour ça qu'on n'a pas accès directement en ligne aux documents. C'est parce qu'il y a une protection, en fait.
Bah, on souhaite effectivement pouvoir assurer le plus possible la protection sur la propriété intellectuelle. Donc, on a cadré, balisé, verrouillé pas mal l'accès. Et en quelque sorte, entre parenthèses, il faut montrer patte blanche. Donc, mais néanmoins, on sait que ça va répondre à des besoins. Et on veut pouvoir faciliter cet accès. Et donc, c'est le cas maintenant, même s'il faut un mot de passe pour y accéder.
Le musée de l'école rurale, on vous a déjà parlé de la formidable exposition que vous pouvez voir en ce moment. Il s'agit de la fabrique de l'école 2.0 et puis donc ce centre de documentation qui fonctionne toute l'année, plutôt pour les chercheurs, les journalistes, il faut bien sûr réserver avant.